L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère et notre territoire en particulier, notre zone d'émission qui colle quasiment avec les frontières du PNRA, le Parc Naturel Régional d'Armorique, un partenaire régulier et de longue date de Transistor. Disons qu'on partage les mêmes valeurs. Par exemple, quand il s'agit de la terre, de ce qu'on en fait, d'une agriculture qui devance, qui répond au changement climatique, qui s'empare des questions liées à la biodiversité, qui s'interroge sur les modes de production et de consommation des plantes et des animaux. On a déjà exploré les élevages tests qui se sont lancés à Ménesmeur. Aujourd'hui, il est encore question d'expérimenter. Et en agriculture, c'est encouragé par un programme européen leader. Solène Larzul est chargée de mission développement agricole et alimentaire et elle est avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce projet Ma Ferme Demain. Bonjour Solène.
Bonjour.
Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que le parc d'Armorique a des missions agricoles ?
Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de missions agricoles. Et justement, du coup, cette expérimentation Ma Ferme Demain est clairement le résultat finalement de constats qui ont été sur le terrain. C'est également le constat de tendance nationale. En gros, donc, du coup, ce projet, Ma Ferme Demain, du coup, il vise à faciliter la transmission des exploitations agricoles qui sont sans repreneur identifié ou difficilement cédables en l'état. Et le but est donc de permettre l'installation de nouveaux porteurs de projets sur le territoire. Il est né, en fait, de trois grands constats. On a déjà un constat qui est assez complexe, qui est partagé. Hein. On a notamment le changement climatique, on observe bien toutes ces conditions exceptionnelles. On a des conditions de travail difficiles en agriculture, avec une rémunération qui n'est pas forcément à la hauteur, avec une notion de partage de la valeur qui est à retravailler. Et puis, en deuxième constat, on a quand même des tendances nationales qui sont même aussi régionales. On parle d'une installation pour trois départs en agriculture, donc un faible taux de renouvellement des générations agricoles. Dans le même temps, on a la moitié des agriculteurs qui va arriver dans les 10 années à venir en âge de prendre leur retraite. Et puis, on a vraiment, c'est marquant, un changement au niveau du profil des porteurs de projets.
Ouais.
On a ce qu'on appelle, ils sont maintenant plus de 70% des non-issus du milieu agricole, les fameux NIMA.
Ah oui, on sait qu'ils sont 70% maintenant.
Ils sont 70% à porter des projets d'installation, 60% à s'installer et 40% aider. Vraiment avec les aides à l'installation, mais ils sont de plus en plus importants et ils portent des projets souvent plus diversifiés, sur des plus petites surfaces, axés plus vers la valorisation par la transformation ou par la commercialisation en circuit de proximité. C'est un public qui est souvent issu de reconversion professionnelle aussi. Et on se rend compte que l'accès au foncier est difficile pour eux et que les coûts de reprise finalement des fermes sont de plus en plus conséquents. On a eu quand même une tendance
qu'elles sont de plus en plus grosses.
Ah, voilà, bah ouais. Il y avait besoin à l'époque d'une économie d'échelle. Les fermes se sont intensifiées, spécialisées, ce qui fait que maintenant en fait on observe une inadéquation en fait entre les fermes que les porteurs de projets peuvent rechercher actuellement et les exploitations qui sont ou qui vont dans un à court terme être cédées.
Donc des volontaires, il y en a en tout cas pour la reprise, mais voilà.
Il y en a, mais voilà, ils ne trouvent pas toujours l'adéquation. Et puis vraiment, on a des constats locaux aussi, hein, vraiment sur le territoire, qu'on a notamment pu mettre en avant grâce à la réalisation du diagnostic agricole et alimentaire qu'on a réalisé justement dans le cadre de ce projet-là. Et là, qui montre bien finalement qu'on a un déficit des productions végétales sur le territoire. Si on vise un petit peu à travailler l'autonomie alimentaire, on voit que voilà, il manque de la production végétale. Alors on parle de fruits, de légumes, de légumineuses aussi pour l'apport de protéines végétales. On a de l'élevage bien évidemment, mais pas forcément avec de la production qui est consommée localement. On a quand même aussi beaucoup de productions qui vont partir plus dans les grandes filières, donc pas forcément être consommées. Et cet élevage, pourtant, on en a besoin, mais effectivement, l'intérêt serait peut-être de réussir à le faire consommer, enfin la production, en tout cas les produits animaux, à les faire consommer localement. Voilà.
On peut avoir peut-être un portrait quand même du parc, du type de, du nombre d'exploitations agricoles, du nombre de personnes.
Le parc, c'est 632 exploitations agricoles et c'est quand même un territoire d'élevage. On est à 80% tourné vers l'élevage avec la moitié en bovin lait ou viande. Voilà,
L'autre moitié ?
L'autre moitié, ça va être de tout ce qui est de la culture, ça peut être du porcin, des petits herbivores, du maraîchage, voilà, on a tout le reste.
Donc c'est le bovin qui domine dans le... Est-ce qu'il y a eu des montées de tout ce qui était ovin ? Moi, c'est une impression que j'ai, mais c'est peut-être pas une réalité.
Il y a des projets qui naissent de plus en plus, si, mais ils sont pas encore surreprésentés, loin de là, oui. Mais c'est ce travail-là, justement, qu'on veut essayer de mettre en avant. C'est-à-dire que là, on voit bien, il y a une adéquation entre les outils. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à mettre en adéquation ces outils-là. Et c'est justement un peu repenser l'activité de la ferme, la diversifier aussi. Pour justement pouvoir permettre de mettre en place tous ces projets. Et là-dessus, ça vient répondre aussi à d'autres attentes des porteurs de projets. C'est déjà l'envie éventuellement de mutualiser. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend bien compte que l'attractivité du métier, elle est en berne, a fortiori en élevage, où on a beaucoup d'astreintes quotidiennes. Donc, installer, redessiner une ferme, installer plusieurs productions sur une même ferme, c'est permettre à des porteurs de projets de mutualiser des terres, de mutualiser du matériel, de s'entraider. Et ça répond aussi à une attente forte.
Et de se remplacer, par exemple, pour partir en vacances,
de se remplacer, des tours de garde, des choses comme ça.
En effet, voilà. Un peu comme les médecins dans les campagnes. Donc ça, c'est le rôle, c'est le rôle d'un parc. Ça peut être le rôle d'un parc comme le parc d'Armorique.
Le parc a décidé de s'en saisir. Il faut savoir qu'il n'y a pas jusqu'à présent de collectivité qui ait lancé un tel projet, surtout de A à Z, c'est-à-dire en lançant, on va en parler, cet appel à manifestation d'intérêt de la part des cédants. Il y a des initiatives qui se sont créées, mais souvent c'est par opportunité. C'est-à-dire, voilà, ça s'est présenté, donc on a une ferme à reprendre, une collectivité qui a pu racheter une ferme, là ça ne va pas du tout être le cas, ou qui va accompagner un porteur de projet qui a trouvé une ferme trop grande et qui a besoin d'installer d'autres personnes avec lui pour pouvoir reprendre la ferme. Voilà, là vraiment, la démarche de A à Z en essayant d'appeler les cédants qui souhaitent céder justement, mais également qui acceptent de repenser éventuellement l'activité sur leur ferme, jusqu'à établir un petit peu des scénarios possibles de reprise, appeler ensuite faire un appel à candidature des porteurs de projets et ensuite les accompagner. Ça, c'est vraiment une démarche qui n'a pas encore été mise en œuvre.
Il n'y a pas d'autres parcs qui ont fait ça, qui vous inspireraient
On coopère entre parcs, notamment plus sur comment maintenir les élevages herbagers sur le territoire, puisque c'est fondamental pour l'entretien des paysages, des espaces naturels sensibles et tout. Tout ça, c'est lié, finalement. Et on a quand même le parc naturel du Haut-Languedoc qui a travaillé sur ce qu'on appelle les installations collectives ou multiples. Donc, c'est un peu ce contexte-là. C'est-à-dire, en fait, on parle de fermes collectives quand, sur une même ferme, on va avoir une seule entité et on va avoir plusieurs ateliers de production qui vont coexister et qui vont être gérés en commun. Et les fermes multiples, elles, ce sont des entités qui vont être des entités individuelles, plusieurs petites fermes individuelles, qui vont avoir leur propre autonomie sur le site, mais qui vont pouvoir, mine de rien, mutualiser, comme je disais tout à l'heure, du matériel ou dans la rotation des terres ou les choses comme ça, voilà, qui vont pouvoir s'entraider pour justement rendre le métier aussi plus attractif. Parce que maintenant, vraiment, on se rend bien compte que les porteurs de projets, qu'ils soient non issus du milieu agricole ou pas d'ailleurs, parce que j'insiste sur le fait qu'il y a aussi des reprises qui se font Sur la même production et tout, il n'y a pas de souci.
Oui, des transmissions familiales
oui,
aussi,
voilà,
tout simplement.
Oui, voilà, des transmissions ouais. Alors, plus familiales, effectivement, parce que là, les coûts de reprise sont tels que pour des tiers, c'est plus compliqué, mais familialement, ça se fait très bien. Il y a aussi des non-issus du milieu agricole qui souhaitent reprendre une ferme en lait en filière longue. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais quoi qu'il en soit, les nouveaux porteurs de projets actuellement, ils réfléchissent beaucoup plus à la charge de travail et à l'endettement, enfin, au coût d'investissement. À l'investissement de départ, quoi.
Oui.
Donc, et là, voilà, ce projet Ma Ferme Demain peut permettre un petit peu de répondre à ce contexte-là.
Alors, en quoi consiste ce projet qui est donc financé dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle LEADER ? Enfin, on peut peut-être rappeler vite fait
ce
que c'est.
Oui, c'est important parce que du coup, c'est financé par le LEADER Pays de Brest. Donc, en fait, le projet ne concerne pas la totalité du parc, mais bien le territoire qui est commun au Pays de Brest et au parc d'Armorix, c'est-à-dire 22 communes sur les 44 du parc, dans un premier temps. C'est-à-dire que ça concerne trois comcoms notamment, hein, celle de Crozon dans son intégralité, et puis celle de Châteaulin et de Landerneau, pour partie, finalement. Voilà.
Oui, donc tout ce qui est Yeun, enfin.
Ouais, pour l'instant, bah, ouais, le but, de toute façon, c'est pas grave, on va faire l'expérimentation, ça va marcher, on va essaimer.
Bien sûr, voilà. C'est ça. Donc, en quoi consiste ce projet, ces étapes ? Enfin, déjà, je ne sais pas si vous voulez commencer par dire quels sont les profils que vous cherchez. Comment vous voulez nous présenter
là,
ça ?
En fait, c'est un projet qui va se dérouler en quatre grandes étapes. Et là, c'est la première et c'est la plus importante. Et là, le parc la lance aujourd'hui, demain. le but là, c'est vraiment d'identifier des cédants qui sont volontaires pour entrer dans cette démarche là. Alors, ces cédants, comme je dis, il faut qu'ils envisagent de céder à plus ou moins court terme, finalement. Hein. On dit qu'une transmission, ça s'anticipe 5 ans à l'avance. C'est quand même assez rarement le cas. Voilà. Donc,
mais
là,
ça peut être des gens qui veulent céder dans 5 ans, en fait. Enfin, de préférence.
Oui, alors, idéalement, peut-être, dans 5 ans ou plus, je pense que c'est des pas de temps de différence, ça peut être aussi très intéressant. Mmh. Il ne faut quand même pas oublier aussi qu'on parle de personnes qui vont arriver à la retraite, mais on a aussi des cédants qui peuvent avoir envie de céder avant la fin de leur carrière. On a des changements de profil chez les porteurs de projets. On en a aussi chez les agriculteurs qui peuvent souhaiter faire autre chose sur la fin de leur carrière ou céder prématurément.
C'est assez courant, d'ailleurs, hein, des gens qui font juste de l'agriculture pendant 15 ans. Ouais. Enfin, bon, voilà. D'accord, ok.
et donc après c'est un profil de cédant qui a envie réellement de maintenir une agriculture dynamique sur le territoire. Pourquoi on dit ça ? Parce que c'est vrai que souvent la transmission, la première attente finalement, c'est de céder sa ferme dans l'état, c'est-à-dire avec la même production et tout. C'est aussi le plus facile.
Plus simple,
Et puis faut bien penser, il y a aussi tout l'affect, hein, céder une ferme. C'est pas juste arrêter un métier, quoi. C'est bien plus. Et malheureusement, la deuxième solution qui est de transmission, c'est l'agrandissement. Beaucoup de cédants ne souhaitent pas forcément voir leur ferme partir à l'agrandissement. Donc c'est un peu ces cédants-là qu'on cherche.
C'est-à-dire qu'en gros, l'agrandissement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on démantèle souvent, la ferme. C'est un voisin qui va racheter la ferme, mais qui est plus attiré en général aussi par le foncier que par les bâtiments, donc d'où la possibilité de voir développer de plus en plus de friches bâties aussi. Donc le projet Ma Ferme Demain, il veut travailler aussi là-dessus, parce qu'installer finalement plusieurs personnes sur un site, c'est éventuellement réutiliser un maximum de bâtiments aussi. Donc voilà, donc ça c'est important qu'ils aient cette envie-là, et puis voilà, et qu'ils soient capables, du coup, qu'ils aient vraiment envie de... Enfin, qui arrive à pouvoir se dire que la ferme va devenir autre chose, mais que, voilà, repenser un petit peu l'activité et tout, mais que, finalement, l'important derrière, c'est qu'on installe des jeunes, c'est qu'on installe des fermes qui soient durables, qui soient pérennes. Voilà. Donc là, c'est vraiment la grosse phase, l'appel aux cédants volontaires.
Et qu'ils soient sur les trois comcom qu'on a cités.
Sur les trois comcom. Idéalement, on sélectionnerait trois. Alors, c'est vraiment un projet multipartenarial qu'on va mener avec les partenaires, notamment tous les structures d'accompagnement à l'installation transmission. Donc, bien évidemment, la Chambre d'agriculture, hein, qui a un outil, le répertoire départ installation, pour mettre en relation justement les cédants et les candidats. Donc, c'est vraiment important. Et puis, le GAB, le CIVAM et puis aussi Terre de Liens pour toute la partie travailler sur le portage du foncier. Qu'est-ce que voilà,
voilà, est-ce que rappeler, Terre de Liens, c'est une association qui rachète des terres pour des gens qui veulent s'installer, hein,
alors,
c'est ça.
Soit ouais, au niveau de la foncière qui va racheter des terres, soit qui va permettre de développer ce qu'on appelle les SCI citoyennes ou les GFA, donc voilà, faire que les terres soient rachetées par une société civile citoyenne, par exemple, et donc en fait qui vont des terres qui vont plutôt sortir de la spéculation, de la marchandisation finalement, et ce qui rend du coup l'outil beaucoup moins lourd à racheter, puisque c'est ce qu'on appelle un fermage, donc une location des terres. Donc le porteur de projet ne se retrouve pas à acheter les terres en plus déjà de l'outil de travail autre, quoi.
Donc le GAB, c'est le groupement des agriculteurs bio, le CIVAM on le connaît bien sur Transistor qui vient.
Voilà. Le CIVAM on l'attend beaucoup parce que là on s'en rend pas compte, mais il y a aussi beaucoup d'humains qui va se jouer, ça va être beaucoup au niveau des relations humaines.
Oui, il faut que le cédant, la cédante se sente bien avec les personnes qui vont
aussi,
reprendre, c'est ça.
Voilà. Et puis que le pas de temps, enfin voilà, il y a un timing, que le pas de temps colle.
Oui, qu'ils ne sont pas pressés aussi de lâcher sa ferme, etc. Donc ça c'est ça va peut-être être le plus difficile finalement de gérer les temps.
C'est l'étape vraiment la plus importante. Avec, on attend vraiment que les cédants nous fassent signe avant le 15 janvier là 2025, puisque derrière il va y avoir tout un process de diagnostic finalement de ces fermes là, d'évaluer un peu le potentiel de conversion, que ce soit en termes de production, éventuellement de signe qualité. Il y en a qui se questionnent, est-ce qu'on passe en bio, pas en bio ou autre chose. Le but de cette étape-là va être vraiment d'élaborer des scénarios de reprise qui soient possibles. Et la troisième phase qui va être très importante, qui aura lieu à la fin de l'été 2025, là, ça sera après l'appel à candidature des porteurs de projets pour ensuite pouvoir justement les mettre en relation avec les cédants et qu'on puisse les accompagner et voir aussi quels sont éventuellement les manquements en termes d'accompagnement, hein, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Nous, le parc, on a déjà aussi travaillé sur l'espace test agricole, c'est la même chose. C'est tous ces dispositifs d'accompagnement à l'installation qui, plus ils vont se multiplier, plus ils vont permettre finalement aux porteurs de projets de tout type, de tout profil, de pouvoir s'installer.
Oui, en fait, vous cherchez les cédants, mais vous avez quand même une idée du type de porteur de projet, parce que vous êtes contacté régulièrement, j'imagine, par des porteurs de projet.
Les porteurs de projet, on essaie déjà de les identifier, effectivement. Donc, on les rencontre sur le terrain. On les rencontre aussi parce que le parc fait partie de la gouvernance de la SIAP 29, la coopérative d'installation en agriculture paysanne, qui, elle aussi, propose un dispositif d'accompagnement à l'installation, qui est la formation paysan créatif.
D'une douzaine de personnes par an.
Une douzaine de personnes par an, voilà. Exactement. Et on voit, ça nous permet aussi de voir les profils évoluer, de voir les recherches. Donc voilà, là, c'est un bon pool. Et après, effectivement, que ce soit la Chambre, le GAB, le CIVAM, ils répertorient aussi les porteurs de projets. Donc on a une visibilité quand même là-dessus. Après, ça va être une histoire un peu de Tetris, de savoir qui peut s'entendre avec qui, quelle production peut être complémentaire. C'est un peu réinventer, remettre en place, les anciens le faisaient, hein, c'est la polyculture polyélevage où on va avoir plusieurs productions et où parfois les coproduits d'une production vont pouvoir servir à nourrir une autre production. Donc c'était l'économie circulaire en fait qu'on peut voir, qu'on peut essayer de mettre en place.
Et on est vraiment sur l'alimentaire ou est-ce que ça peut être, parce qu'il y a des filières lin-chanvre qui commencent à revoir le jour en Finistère, en tout cas, pas forcément dans le parc, mais est-ce que ça peut être ça aussi
Alors, moi, au niveau alimentaire, comme on disait, c'est déjà essayer de pousser un petit peu les productions végétales manquantes, c'est-à-dire légumes, fruits, légumineuses, parce qu'on travaille aussi quand même dans le cadre du PAT sur le...
Ouais, parce justement, il faut rappeler que le parc
l'autonomie alimentaire du parc. On a l'alimentaire. Par contre, quand je disais réaffecter les différents bâtiments et tout, on peut tout à fait envisager sur un site de pouvoir voir intervenir de l'artisanat, qu'il soit alimentaire ou pas alimentaire.
La transformation,
c'est-à-dire que,
quoi.
Voilà, réaffecter des bâtiments, ça peut passer par là aussi, ça peut passer par de l'artisanat autre, et donc pourquoi pas aussi du lin et tout. Bon, après, ça, c'est le lin, c'est vraiment une filière qui se met en place, qui nécessite beaucoup de matériel et tout. C'est encore autre chose. Mais effectivement, on a aussi la filière laine qui essaye de renaître un peu. On peut tout à fait envisager d'avoir de la laine. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on cible là plus, on est plus sur un travail alimentaire, mais effectivement, le travail de la laine, finalement, c'est aussi valoriser les coproduits d'un élevage d'ovins-viande qui va servir en viande aussi. Mais voilà.
Et les solutions, alors là, je pense à vraiment des cas concrets de solutions techniques. Enfin, est-ce qu'il existe des solutions techniques pour transformer, je dis pas, un gros bâtiment agricole type élevage de cochons en bâtiment multiple? Enfin, je crois que ça existe. Hein. C'est, vous allez devoir vous poser ces questions-là aussi.
Ah ouais,
on
n'y est pas encore, mais effectivement, c'est vraiment c'est un des freins qu'on avait pré-identifié. Hein, c'est la réaffectation des bâtiments. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, effectivement? Alors après, sachant qu'en plus, on a la problématique de l'amiante aussi, qui va porter des coûts. Alors là, on est bien d'accord, hein, le parc, il va rien acheter. On n'a pas non plus prévu de prestations de désamiantage. Mais effectivement, ça va être aussi, en termes d'urbanisme, se dire: est-ce qu'un bâtiment qui est à destination agricole, il va pouvoir servir pour autre chose, voire de l'artisanat ou autre chose? Donc ça, c'est des billes qu'il va falloir acquérir au fur et à mesure. J'ai pas la clé en main, les techniques pour transformer. Après, là, il y a eu des initiatives qui se sont créées. Il y a des fermes qui se sont comme ça un peu restructurées et qui ont, par exemple, installé une dans un ancien bâtiment d'élevage, enfin voilà, les choses sont possibles. C'est clair qu'un élevage, on dit souvent les élevages bovins laitiers sont peut-être les plus faciles à réinventer, à réaffecter en fait.
Mais ça tombe bien, ouais. Vu qu'on en a pas
oui,
mal.
Bah oui, ça tombe plutôt bien.
En effet. Donc le rôle pour récapituler le rôle du parc d'Armorix, c'est quoi, coordonner les acteurs? Enfin, il y a quand même
pardon, j'ai perdu le fil.
Quel est le rôle du parc?
Là, le rôle du parc, c'est vraiment il se positionne vraiment en pilote de projet, hein, donc c'est piloté, c'est coordonné, mais c'est vrai que j'insiste sur le fait que c'est un projet multipartenarial.
Il y a des partenaires qu'on n'a pas cités, ouais, peut-être. Non.
Bah non, mais après,
ouais.
Voilà,
il y en aura d'autres qui vont peut-être se
griffer. L'économie sociale et solidaire, oui. Très importante aussi, parce qu'on va travailler aussi sur les différentes formes d'installation, les formes juridiques notamment. Donc voilà. Donc le parc il se positionne comme ça. Après, derrière. Comme je disais, il va y avoir, j'espère, comme il y aura plein de fermes qui vont se. plein d'exploitants qui vont se proposer, il va y avoir un comité de sélection ensemble, qu'on va mener ensemble pour. Idéalement, ça serait, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais identifier trois fermes, une sur chaque com-com. Voilà. Et derrière, après, le parc, bah, ça va être tout le travail.
Quand est-ce qu'on connaîtra les fermes choisies? Alors, c'est quoi, en printemps En mars?
Là, idéalement, en février, quoi, espérant qu'on n'ait pas à repousser la date limite.
Oui, mais parce qu'il vous faut, pour choisir les fermes, il faut que vous fassiez le diagnostic, ça prend un peu de temps, ça, non?
Oui, alors il y aura en fait une grille plutôt souple de diagnostic en amont. Après, vraiment, le plus gros du diagnostic, enfin vraiment le diagnostic complet sera réalisé plutôt sur les fermes déjà pré-ciblées, quoi.
D'accord.
Mais effectivement, oui, ça c'est les diagnostics, ça pareil, ça va être en partenariat avec la Chambre d'agriculture notamment et le GAB et le CIVAM qui proposent des diagnostics transmission, on appelle ça en fait. Donc on va le faire en partenariat et après le parc s'occupera bien sûr avec des retours des différents partenaires techniques là surtout aussi d'élaborer ces différents scénarios finalement.
Et vous élaborez des scénarios avant d'avoir les porteurs de projet?
Oui, c'est déjà savoir ce que la ferme, enfin, en élaborer plusieurs, hein, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer sur cette ferme-là en considérant toutes les contraintes, hein, on peut parler l'accès à l'eau, l'électricité, les conditions d'urbanisme et tout. Donc voilà, c'est déjà qu'est-ce qu'on peut plus ou moins envisager, mais rester quand même suffisamment souple, effectivement, pour que les porteurs de projets puissent adapter en fonction de leurs besoins aussi, quoi.
Ouais, parce que si vous aviez des porteurs de projets qui tout à coup soient plus innovants, enfin je sais pas, je pense à de l'élevage d'insectes, etc. Il faut vous puissiez être ouvert à ça aussi, quoi. Non.
Bah oui, mais en même temps, ça nécessite pas de foncier. Donc c'est là, ouais, on est dans du bâtiment, donc très bien.
En effet.
Très bien, très bien. Après, du coup, effectivement, ça, on n'a pas dit, mais c'est un projet qui va durer 18 mois. C'est vraiment un projet, c'est coup de poing, quoi, un peu.
Ouais, c'est vrai.
Mais le but est vraiment d'essayer de dérouler au maximum cette démarche-là. Après, le parc n'a pas vocation à conseiller à l'installation, à la transmission ad vitam aeternam. Donc, le but est bien que les structures partenaires ensuite s'emparent un petit peu de cette, éventuellement, de cette méthodologie qu'on aura pu réussir à sortir un petit peu de cette expérimentation-là.
À élargir à d'autres territoires du parc et
voilà,
en dehors du parc.
Voilà, et s'aimer ensuite derrière et tout. Ouais. Vraiment, c'est voir, et c'est vraiment beaucoup, comme je disais, en termes d'accompagnement, quoi. Savoir quels sont les besoins, quels sont les manquements et comment on peut accompagner. C'est quand même plus complexe qu'une transmission simple, quoi.
Ah oui, en effet, oui, c'est sûr.
Après, ce qui est aussi important, c'est que la transmission, c'est vraiment une étape clé pour pouvoir envisager de modifier les pratiques. On parle notamment de transition agroécologique. Elle est entamée, mais ce projet peut aider finalement à renforcer un petit peu cette transition. Comme je disais tout à l'heure, le but est vraiment d'avoir des fermes qui soient durables et pérennes. Ça, c'est vraiment important. Et donc, et renforcer l'autonomie alimentaire dont on parlait tout à l'heure.
Eh bien, on va suivre ce projet attentivement. Donc là, en tout cas, la première étape, c'est avant le 15 janvier, recrutement des cédantes et des cédants qui, s'ils nous écoutent, peuvent se manifester.
Et j'insiste quand même aussi, ouais, c'est que donc il y a un contact sur le flyer, les affiches qu'on va distribuer. C'est vraiment un contact privilégié. Hein. Je sais que les cédants ont souvent du mal à se faire connaître, ont pas forcément envie et tout. Là, vraiment, c'est un numéro de téléphone. C'est un échange vraiment confidentiel. Il n'y a pas de transmission de données, quelles qu'elles soient. Et puis, ça ne vaut pas engagement que d'appeler pour se renseigner.
Sur le site internet du PNRA, Parc d'Armorique. Merci beaucoup, Céline.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.